Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Temps.m Radio dans cette nouvelle émission, le point G. Et oui, petit coquin, vous pensiez que c'était une émission sur le sexe, pas du tout. C'est bien une émission de philosophie dont nous allons parler avec G pour Gilles, Gilles Pétel, agrégé de philosophie, qui va nous emmener comme ça tout au long de ces émissions pour visiter, je ne sais pas si on peut dire ça, visiter la philo, est-ce qu'on peut dire ça?
Bonjour. Oui, bonjour Richard, oui, c'est une visite, c'est un chemin un peu libre à travers les problèmes de la philosophie. Ça ne prétend pas être un cours, il s'agit d'évoquer certains sujets et de laisser libre cours après à la discussion entre toi et moi.
Une sorte de discussion.
Voilà, chemin, discussion, et le but c'est peut-être d'éclairer un peu un ou deux problèmes de la philosophie.
C'est ça, c'est le point G en fait. On va soulever des points, hein, des points particuliers, voilà. Comme ça tout au long de l'année. Alors aujourd'hui, pour cette première émission, le point G, il fallait obligatoirement passer par le désir.
C'est ce que je me suis dit, effectivement. Je dis d'abord le désir, c'est un petit peu comme la météo, tout le monde en parle. En même temps, c'est un peu plus que le bulletin météo, qu'on oublie aussitôt après l'avoir écouté.
Surtout quand il se trompe. Mais...
Absolument. On évitera de nous tromper en philosophie. Alors que le désir, précisément, on ne cesse d'y penser. J'y ai réfléchi, je me suis dit, mais au fond, le désir, tout le monde ne pense qu'à ça.
Je suis d'accord.
C'est précisément ce que dit l'expression commune. En même temps, personne ne sait exactement ce que signifie désirer. Et en y réfléchissant un peu plus près, je me suis dit, mais au fond, c'est un peu comme le temps cette fois-ci, mais le temps qui passe. Et j'ai pensé à saint Augustin qui dit cette chose assez jolie à propos du temps qui passe à nouveau. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Si quelqu'un pose la question et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Je crois que le désir fait partie de ces évidences que nous pensons rarement à interroger, tellement elles nous sont familières. Au fond, chaque homme désire et croit savoir ce qu'il désire et ce qui lui arrive lorsqu'il désire. Je crois aussi que si le désir apparaît tellement évident aux yeux de tout le monde, à toi comme à moi aussi, c'est parce qu'il nous est proche. Le désir, c'est d'abord mon désir. Le désir nous apparaît subjectif. Et c'est une première raison, je crois, pourquoi les gens tiennent tellement à leur désir. Cette fois-ci, au pluriel, leur désir qu'ils vont identifier à leur moi. On va voir tout au long de la discussion qu'il y a vraiment, pour beaucoup de personnes, une identité entre ce qu'ils sont et ce qu'ils désirent.
Alors, je suis désolé, mais moi, je suis évidemment pas ni philosophe, ni étudiant en philosophie ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas ce que c'est que le moi. Moi, ça me paume un peu, en fait, en général.
Précisément, le moi, c'est quelque chose qui est très, très obscur. C'est un conglomérat d'images, d'expériences. C'est surtout un sujet, c'est de la grammaire, le moi. Les gens disent « moi, je », mais c'est un peu comme le désir, personne ne se demande ce que c'est que le moi, précisément. Mais tu remarqueras que nous parlons toujours du moi. Il est omniprésent, aussi bien dans la phrase que dans les propos « toi, tu, moi, je », etc. Et pour revenir au désir, les gens disent « moi, j'éprouve tel désir, toi, tu as tel désir ». Et les gens vont se distinguer les uns des autres par rapport à leur désir. Bref, je crois l'idée, et c'est là-dessus que je voudrais centrer le propos qu'on va avoir, c'est l'idée que les désirs, les gens les considèrent comme personnels. C'est mon désir, mes désirs, c'est pas les tiens. Or, je crois, et c'est ce que je voudrais montrer, c'est peut-être la plus grande illusion qui soit. Voilà.
Est-ce que c'est pas une sorte de, comment je pourrais dire, à la fois de moteur, une sorte de, peut-être même d'essence, l'essence de la vie, le désir, parce que finalement, quand on regarde bien, le désir c'est vouloir quelque chose, quelque part, et c'est ce qui nous fait avancer depuis qu'on est bébé jusqu'à notre mort.
Absolument. Alors, tu m'engages immédiatement à parler de la définition du désir. Au fond, qu'est-ce que c'est que désirer ? Il y a plusieurs manières de répondre à la question en philo. Je vais revenir à ce que tu proposes, qui est très juste. Je rappellerai juste deux citations, deux définitions du désir qui sont célèbres. L'une est de Platon. Platon dit « le désir est désir du manque ». On y reviendra. L'autre, beaucoup plus proche de nous, René Girard, philosophe français du XXe siècle, dit « le désir est désir du désir de l'autre ».
Oh là là.
C'est effectivement très joli, c'est un peu impressionnant. Ça a l'air alambiqué et à un peu creux, ça l'est pas du tout. Ça, on en parlera un peu plus précisément plus tard. Bon, donc il y a pas mal de façons en philosophie de définir le désir. Alors pour justement essayer de mettre les choses un peu au clair et pour entrer dans le vif, moi j'ai choisi de retenir une définition de Spinoza que j'aime bien et qui dit, et c'est ce que tu notais, le désir est l'essence de l'homme. C'est ce qui nous définit, c'est ce qui est le plus important chez nous. Voilà. Alors maintenant, il faut bien comprendre la définition de Spinoza. Pour beaucoup de gens, le désir est au centre de leur vie, ils ne veulent pas lâcher leur désir, ils s'y accrochent, enfin, et ils ont raison d'ailleurs. En même temps, ils comprennent mal...
On peut se poser la question, d'ailleurs, s'ils ont raison ou pas. Ah, c'est une vraie question. Parce
absolument.
Que, je ne sais pas si tu as prévu d'en parler après ou j'en sais rien, et puis peut-être que je te coupe un peu dans ton élan. Mais le désir, est-ce que, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on doit aller jusqu'à l'accomplissement du désir ou est-ce que c'est une chimère? Est-ce que c'est un suicide?
Ben, je ne crois pas. Justement, je pense qu'il faut désirer, lapsus, il faut distinguer le désir et le rêve, le désir et le souhait. C'est-à-dire qu'un désir, c'est quelque chose qu'on a, pour employer un synonyme, un désir, c'est quelque chose qu'on a envie de réaliser, j'ai envie de dire, ici et maintenant. Au fond, la question que les gens posent souvent, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Quels sont tes désirs? C'est une question complètement creuse, en réalité. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu désires ici et maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Le désir, il est en
acte. Il y a une notion d'immédiateté.
Il y a une notion d'immédiateté, mais ça n'empêche pas que le désir se déroule dans le temps. Ça peut prendre des mois, des années pour accomplir un désir. Mais pour répondre clairement à la question que tu posais, oui, il ne faut pas lâcher ses désirs. Il faut tout faire pour le réaliser. Ce serait suicidaire de ne pas chercher à la réaliser. Alors on reviendra là-dessus, je dirais, dans les limites de la légalité. Il y a des désirs qui peuvent être dangereux. Mais le désir, on va le voir, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous définit. Donc renoncer à nos désirs, bah, c'est renoncer à la vie, en fait.
L'historien que je suis va évidemment dire que, comme je disais tout à l'heure, depuis qu'on est tout bébé jusqu'à notre mort, on a le désir de voir plus loin, le désir d'abord de se mettre sur ses deux pieds, puis de passer dans la pièce d'à côté. Et puis plus on grandit, plus on veut aller dans le pays d'à côté, puis dans le continent d'à côté. C'est un peu l'histoire, c'est toute l'histoire du monde.
Alors, ça,
qui
c'est...
nous différencie peut-être des animaux ?
Ça, sur la différence avec l'animal, on pourra en parler un peu après, mais pour prendre la première partie de ta question, sur le désir d'aller toujours plus loin, c'est le caractère insatiable du désir. Si j'ai obtenu un diplôme qui devrait me satisfaire et qui me satisfait partiellement, maintenant je rêve, comme disent les gens, d'obtenir le diplôme supérieur. Donc c'est le côté insatiable du désir est au fond, pour certains philosophes, un peu misérable. La source de cette conception, on la trouve chez Platon dans Le Banquet. Je le disais, le désir est désir du manque. Donc au fond, on n'a jamais ce qu'on désire. Maintenant, ça ne devrait pas, je ne pense pas que ça remette en cause le point de départ que j'avais choisi, à savoir que le désir nous définit et qu'il ne faut pas lâcher son désir. C'est-à-dire, ce qui compte, ce n'est pas tant, même si ça va surprendre les auditeurs, ce qui compte, ce n'est pas tant de satisfaire son désir que de désirer. La pire des choses pour un être humain, c'est de ne plus éprouver aucun désir.
Je vais te faire sursauter, ça me fait penser à une chanson, mais que je citais souvent en exemple à des étudiants quand je les aidais à revenir dans entre guillemets dans le droit chemin, c'est-à-dire à se mettre à bosser. Je leur citais une chanson de Johnny Hallyday, c'est l'envie d'avoir envie, retrouver l'envie d'avoir envie. Quand on n'a plus envie, plus de désir,
absolument.
Effectivement, on est mort.
Mais je crois que l'idée qu'on trouve chez Spinoza notamment, donc le désir nous tient en vie, ça, c'est-à-dire c'est notre essence, c'est une idée qui est très populaire en même temps. Les gens s'accrochent à leurs désirs et précisément le jour où ils se rendent compte qu'ils n'ont plus aucun désir, ils sont absolument malheureux. Ça porte d'ailleurs un nom, c'est ce qu'on appelle la dépression nerveuse. La dépression nerveuse, c'est l'extinction du désir. Les psychiatres appellent ça l'aboulie, du grec a, absence de, boulie, boulosis, volonté. Il n'y a plus de volonté, il n'y a plus de désir. Et on sait très bien qu'une personne dépressive est incapable de se lever le matin. Parce que rien ne lui fait envie. Même pas d'aller boire un café au bar d'à côté. Alors sans parler du désir amoureux ou du désir sexuel, là, on est dans l'extinction la plus totale. Donc, on voit bien par l'absurde que le désir est vraiment essentiel. Et donc, il ne faut pas lâcher.
On va se faire une petite pause avec Carmen, évidemment. L'amour est enfant de Bohème. Je pense que c'est assez bien vu.
Oui,
bienvenue.
Absolument, et comme précise Bizet, il n'a jamais connu de loi, cet amour. Il n'a rien dit, mais il m'a plaît.
Alors merci à Bizet. J'avais une question. Est-ce que ce sujet sur le désir est un sujet qui peut être utilisé, enfin notre discussion peut être utilisée par des élèves qui prépareraient le bac par exemple? Parce que là, entre guillemets, on se fait plaisir, c'est-à-dire qu'on fait plaisir aux oreilles et au cerveau, à plein de gens j'espère, mais est-ce que des élèves peuvent s'en servir?
Bah, j'espère, oui.
Et comment?
Tout d'abord, le désir est une des notions du programme du bac dans toutes les séries. Il n'y a pas d'exception, que ce soit les élèves qui passent un bac littéraire, scientifique, économique, tous ont le désir au programme. Ensuite, le désir, on va le voir peu à peu, il est lié à un tas de notions du programme. Bien sûr, il est lié à la question du bonheur, dont on parlera peut-être tout à l'heure entre le lien éprouver des désirs, satisfaire ses désirs, être heureux, etc. Donc il y a le désir, le bonheur, le désir, le plaisir, plaisir qui est aussi au programme, la volonté qui est un proche du désir mais qui est pas tout à fait la même chose. Bah, bref, oui, ce dont nous parlons, je crois, peut tout à fait intéresser les élèves. Et peut-être, puisqu'on en parle de manière un peu plus souple que celle qu'on peut suivre dans un cours de philo, ça peut peut-être leur donner des idées, des remarques, ou une manière d'aborder la
chose. Des points de recherche, peut-être.
Un peu plus libre que ce qu'on s'autorise à l'école.
Évidemment. Voilà. Alors, on va essayer d'être maintenant un peu plus précis encore dans ce désir, dans la définition, d'aller plus loin.
Merci. Alors, justement, je dis... Bon, le désir, c'est ce qui le définit, mais si on essaye d'être un peu plus précis, je retourne une nouvelle fois à Spinoza. Il dit, je cite, « Le désir, c'est l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. »
Je crois qu'il faut la refaire, celle-là. Le désir, c'est...
L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Quand je désire, je persévère. C'est ce que disent tous les étudiants de philo, ça fait toujours rire les étudiants en philo. Est-ce que tu as bien persévéré dans ton être aujourd'hui? Est-ce que tu as bien désiré? Traduction. Alors, bon, c'est une belle définition. Alors, évidemment, elle est un peu étrange, je pense, pour le public. C'est dit effort pour persévérer dans l'aide. Bon, ça paraît un peu curieux. Bon, au fond, si on essaye de dire les choses simplement, le désir, il est lié, c'est ce que tu as remarqué toi-même au début de l'émission, il est lié à l'idée d'élan, de force, d'élan vital. Il est lié à quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation. Il n'y a pas, Freud le dit après Spinoza, bien des siècles après, il n'y a pas de négation dans le désir. Le « je n'ai pas envie », au fond... C'est l'expression d'un contrôle de la conscience. Ça n'est pas le sens du désir. Le désir, il dit oui, c'est ce que remarque Nietzsche également, il dit oui à tout quasiment, à tout ce qu'il a envie. Donc il n'y a pas de restriction dans le désir. Et bon, si on veut, et en ce sens, pour certains philosophes, on peut trouver du désir aussi bien chez l'homme, mais aussi chez l'animal et de manière générale dans toute la nature. C'est ce que dit Platon, c'est ce que dit Aristote. Alors, pour prendre trois exemples assez amusants, on peut dire que l'arbre persévère dans son être, l'arbre désire, quand il pousse ses branches. De même, l'ouvrier, exemple très différent, persévère dans son être, désire, lorsqu'il se perfectionne dans son travail. Autre exemple enfin, l'amoureux, évidemment, qui désire, persévère dans son être, lorsqu'il est amoureux, c'est-à-dire lorsqu'il accroît ses sentiments, et en même temps, on l'espère, lorsqu'il accroît le plaisir qu'il éprouve à fréquenter celle qu'il aime.
Et l'arbre perd ses feuilles, mais enfin, ça, c'était pour détendre.
Mais hélas, l'amoureux aussi, parfois.
Mais c'est vrai. Désolé, mais il fallait la faire, parce que celle-là...
Absolument. Mais si le désir est important, il n'est pas éternel, attention.
Ouais. Je désirais faire cette blague.
Mais tu as bien fait, et c'est une source de plaisir.
Donc, en gros, le désir, c'est tout, finalement.
Non, c'est pas tout. Enfin, le désir, c'est ce qui nous... c'est l'expression de l'individu, c'est-à-dire que c'est la puissance par laquelle nous nous exprimons.
Mais alors, j'ai l'impression à t'écouter que... le désir ne différencie pas l'homme de l'animal ?
À ce stade, non. Pour certains philosophes, que ce soit Platon, Aristote, Spinoza, non. À une différence près, quand même, sinon ce serait tout à fait identique, c'est que l'homme est conscient de son désir. L'animal, non. Chez le désir, l'animal est inconscient.
C'est la conscience qui change.
C'est la conscience que nous avons de notre désir qui, d'ailleurs, va sans doute le compliquer, notamment au niveau du choix d'objet des désirs. L'animal fonce. L'homme s'interroge, doute, imagine, a des fantasmes.
L'homme a des barrières aussi.
Et il a des barrières,
les
il a
barrières
des lois.
Sociales, les lois.
Et il a les lois qui vont compliquer énormément le phénomène du désir. Et qui vont, en ce sens, en faire quelque chose de proprement humain. Alors on peut, en ce sens, dire l'animal ne désire pas, si on veut. Parce qu'il n'y a pas cette complexité liée à la loi, à l'interdit contre lequel se heurte le désir et qui, en même temps, le constitue. Il n'y a pas non plus le langage dans lequel se développe le désir d'après Lacan. Enfin, il y a un tas de choses qui manquent chez l'animal.
Est-ce qu'on peut dire que la loi est un frein au désir ?
Non, bizarrement, pour presque la totalité des philosophes, il y a du désir parce qu'il y a de la loi. C'est-à-dire que, alors, pour être précis, quand on dit la loi, bon, notamment...
Avec un grand L. Hein.
Alors, on peut mettre un grand L, effectivement, c'est ce que fait Lacan. Mais très clairement, la loi, c'est, chez Freud, c'est la loi de l'interdit de l'inceste. C'est parce que un homme, il n'a pas le droit de désirer sa mère, bien qu'il en meure d'envie, qu'il va être amené à découvrir le désir des femmes, ou d'autres désirs au demeurant, peu importe. Mais il faut qu'il y ait un interdit. Et à partir de cet interdit, le désir se constitue. En ce sens, l'inceste est catastrophique, pour un homme comme pour une femme, parce qu'il ouvre grand la brèche et tue le désir. Donc on le sait, les personnes qui sont victimes d'inceste, les enfants victimes d'inceste, ont beaucoup de mal à se construire, ont beaucoup de mal à affirmer leur désir. Donc oui, la loi qui paraît contraire au désir est en fait ce qu'il constitue, d'un point de vue psychologique. Même si on l'a écouté dans la petite chanson tout à l'heure, Carmen dit que le désir n'a jamais connu de loi. Mais quand elle dit qu'il n'a pas connu de loi, Carmen dit qu'il n'a pas connu de loi sociale. Alors il faut faire attention, alors, entre la loi, je dirais, la loi du père qui dit au gamin, au garçon, tu ne coucheras pas avec ta mère, quoi. C'est ça qu'il lui dit, attention, sinon tu vas la perdre, et on sait bien quoi. Donc le garçon la trouille. Et donc ça, c'est la loi du père. Et la loi dont parle Carmen, c'est plutôt la loi sociale. Le désir circule, c'est-à-dire que moi, je peux être un ouvrier et puis crever d'envie de cette belle fille qui est une bourgeoise. Et inversement, la bourgeoise, ça arrive, rarement, mais ça arrive, peut regarder l'ouvrier et trouver qu'il est quand même beau gosse.
Dans certains films, ça arrive souvent.
Ça arrive dans les films, mais je pense que ça arrive aussi parfois dans les...
Certainement.
Oui, simplement, ça ne se dit pas. La bourgeoise ne l'épousera pas, c'est tout. Le mariage est une institution sociale. Maintenant, si elle a envie d'aller tirer un coup avec un ouvrier, elle le fera.
C'est très intéressant, finalement.
Le désir, oui.
Oui. Plein de portes, en fait.
Mais c'est ce qui permet... C'est un mode de circulation des individus, c'est un mode d'échange dans la société. Alors, nos sociétés verrouillent, évidemment, ces échanges, mais il n'y a aucune raison que les différents individus, quelle que soit leur appartenance sociale, ne se désirent pas. Et quels que soient d'ailleurs les sexes, on voit bien avec aujourd'hui la liberté que nous avons, que ce soit du côté de l'homosexualité ou de toute autre forme d'amusement sexuel, on va dire. Il n'y a pas... Bon, non, le désir, en ce sens, va au-delà des lois sociales. Mais cet au-delà ne l'empêche pas de respecter la loi fondamentale qui est, pour le garçon, tu ne coucheras pas avec ta mère, et pour la fille, tu ne coucheras pas avec ton père. Voilà. Alors... Ça m'amène justement, puisqu'on en est un peu à ces différents caractères du désir, à parler de l'objet du désir maintenant. Il y a un film de Buñuel qui me paraît pas mal pour introduire cette question, on en parlait justement avant l'émission, qui s'appelle « Cet obscur objet du désir ». Alors c'est un film qui a été tourné en 1977, ça commence à faire longtemps.
Magnifique, Carole Bouquet entre autres.
Absolument, elle joue une des deux interprètes. Mmh. Alors, pour nos auditeurs peut-être un peu jeunes qui ignorent ce film...
Qui ignorent qui est Carole Bouquet, peut-être.
Et qui ignorent peut-être qui est Carole Bouquet, mais là, si elle nous entend, elle ne va pas être heureuse. Elle est encore une actrice qui joue. Oui. Donc, je leur conseille à ces jeunes gens d'aller voir ce film de Buñuel, qui est une merveille de drôlerie et d'intelligence. Dans le film, je me permets de rappeler rapidement l'histoire.
Rapidement, drôle, c'est la première fois que j'entends, mais bon.
Ah, le film est très drôle.
Ah, moi, je n'avais pas trouvé. Mais...
Ah, moi, je trouve ça très drôle.
D'accord.
Ouais. Bon, on verra pourquoi après. Mais bon, dans ce film, justement, moi, je trouve que c'est les aventures tragicomiques d'un homme éperdument amoureux d'une femme. L'histoire du film, elle est archi banale. Un homme aime une femme et cette femme va se jouer de lui. Bon, ça a été 10 000 fois. Le film est tiré d'un roman de Pierre Louis, La femme et le pantin. Bon, maintenant, le génie de Buñuel, on ne peut pas dire autrement, c'est que le rôle masculin, c'est Fernando Rey qui l'interprète. Le rôle féminin, en fait, est interprété par deux actrices différentes, dont Carole Bouquet, qui joue la femme froide, la femme un peu inaccessible, et l'autre, c'est une Espagnole, Angela Molina, qui joue au contraire la femme sensuelle, celle qui se donnerait plus volontiers, etc. Au début du film, je ne sais pas ce que tu me contrediras, mais au début du film, on a le sentiment que, l'illusion, que l'homme est amoureux de deux femmes différentes. Et on ne comprend pas bien, parce qu'elles se substituent l'une à l'autre, on dit, mais il aime une femme ou l'autre ? Jusqu'au moment où on comprend qu'en fait, ces deux actrices incarnent un seul et même personnage.
C'est ça, c'est la femme en général, en fait.
C'est
l'image.
Alors, je ne sais pas si c'est la femme en général, je crois que c'est, au fond, c'est une manière de nous montrer que, il ne sait pas exactement ce qu'il désire. L'objet du désir, il est obscur.
On l'a vu comme ça.
Moi, c'est comme ça que moi je l'interprète. C'est-à-dire que ça lui échappe. L'objet du désir nous échappe complètement. On ne comprend rien à ce qu'on désire.
Au début, moi, je n'avais rien compris au film, pour être très clair. Ouais. J'avais quoi, 17-18 ans. L'âge où les gamins passent le bac. J'ai vite arrêté, j'ai rien compris. Donc j'ai vu en 3-4 fois ce film.
Je crois qu'au début, c'est un film qui est très déroutant, parce que précisément, on met un certain temps à comprendre que les deux filles sont une seule et même femme dans le film. Mais dès lors qu'on comprend, le film devient drôle, justement. Il prend sa... Parce qu'on voit bien que Fernando Rey se fait complètement mener par le bout du nez. Et en même temps, il est drôle aussi parce que Fernando Rey a un grand talent comique. Enfin, c'est vraiment l'homme à femme. Mais en même temps, c'est l'homme qui n'y comprend rien. Et donc, c'est une manière aussi, de la part de Buñuel, de se moquer de certains clichés. Enfin, l'homme à femme ne comprend rien aux femmes. Finalement, il ne comprend rien à celle qu'il désire. Mmh. Voilà. Donc, je pense que ce film, c'est une bonne manière d'introduire la réflexion sur l'objet du désir. Qu'est-ce que nous désirons en vrai ? Ce film dit que l'objet est obscur. Bah, je dirais de manière philosophique, peut-être plus technique, l'objet du désir est indéterminé. Alors, ça m'amène à deux rectifications par rapport à des idées très à la mode en ce moment et que je tiens justement là, par contre, à détailler. Il y a une première interprétation du désir qui me paraît catastrophique, c'est que le désir est déterminé par la nature. Au fond, l'objet du désir serait un objet naturel. Ça veut dire qu'il y aurait des objets normaux, naturels, et puis des mauvais objets, des désirs monstrueux, au fond. Bien. Alors, cette idée, elle s'appuie sur une conception de la nature, qui est une conception religieuse de la nature, selon laquelle la nature imposerait des buts aux êtres vivants, que ce soit des hommes ou des animaux, d'ailleurs, n'importe peu, et que le but de la nature serait bien sûr, sans doute, la procréation. Donc le désir normal d'un homme, ce serait de procréer avec une femme et vice-versa. Pour les autres, bah, ils peuvent aller se rhabiller. Bien.
Alors, je vois où tu veux en venir.
Ouais, mais notamment...
Attention,
mais...
attention sujet glissant. non, mais allons-y, au contraire.
Glissant.
Non, mais c'est très intéressant et c'est même très important.
C'est important parce que ça a mis tout de même pas mal de gens sur le pavé, cette question.
C'est le cas de le dire.
Oui. Alors, on va rappeler justement, je reprends du Spinoza, que c'est un philosophe que j'aime beaucoup. Spinoza dit, au fond, la nature, elle n'impose aucune norme. Il n'y a pas de but dans la nature. Au fond, ce qu'on appelle nature, c'est simplement le fait d'exister, d'être animé par certaines forces, une certaine puissance, certaines pulsions, enfin, il y a plein de manières différentes de le dire, et de chercher à se développer. Point. Mais la nature ne nous dit pas de faire cette chose pour cette autre chose. Alors il y a une objection qui est très fréquente, je l'anticipe. Les gens vous disent, mais regardez les animaux. Eux, qui sont sains, qui sont des vraies natures, les animaux s'accouplent pour procréer. On dit, voilà, ça c'est la nature. On n'a jamais vu deux lions ensemble, deux lionnes dans un coin de la savane. Ça ne se voit pas, ce qui d'ailleurs est faux au demeurant. Mais laissons. Ce qui est faux de toute façon, c'est que les animaux s'accouplent pour procréer. Les animaux sont excités, sont en rut, et parce qu'ils sont excités, ils s'accouplent pour calmer l'excitation. Ayant calmé l'excitation dans l'autre, eh bien, des rejetons arrivent. C'est-à-dire que la procréation est une conséquence de l'excitation, mais elle n'est pas le but. Donc, en ce sens, on ne peut pas dire qu'il n'est pas normal de faire l'amour sans un but de procréation qui n'est pas naturel. C'est-à-dire, la nature s'en fout, quoi. Et donc, il n'y a pas de sexualité naturelle. Voilà, c'est ça qu'il faut poser, ni chez les animaux, chez lesquels on peut voir un tas de choses assez invraisemblables parfois. Montaigne, d'ailleurs, le note dans les essais. Ni chez les êtres humains. Il y a plein de formes de sexualité. On s'arrête souvent à l'homosexualité, mais enfin, c'est un cas parmi d'autres. Hein. On peut parler du fétichisme, du sadomasochisme, et puis j'en oublie beaucoup.
Ça, c'est des désirs, on arrive dans Sade même, à la limite.
Oui, mais chez Sade, il y a une différence, c'est que chez Sade, c'est jamais entre personnes consentantes. C'est ça le sadisme. Dans les 120 journées de Sodome, il s'agit d'infliger quand même les pires sévices à des pauvres jeunes filles, ou parfois des pauvres garçons aussi, qui sont bon, plus ou moins mis en esclavage. Et d'où le terme de sadisme, c'est-à-dire qu'on leur fait violence. Maintenant, quand on parle de sadisme à notre époque, avec la fameuse expression SM, sadomaso, c'est toujours entre personnes consentantes. Enfin, c'est censé être entre personnes consentantes. Mmh. Et il y a des gens, alors, comprennent qui peut, dit Bobby Lapointe. Et il y a des gens qui aiment qu'on leur fasse mal, et puis il y a des gens qui aiment faire mal. Bon, bah, si les gens et les autres, les uns et les autres se rencontrent et s'entendent, tant mieux.
Mais justement, on en revient directement au désir, puisque est-ce qu'il n'y aurait pas chez l'être humain, dès la naissance, ce côté un petit peu à la fois sadique et masochiste, d'avoir envie de faire mal et envie d'avoir mal. Pourquoi les enfants arrachent les pattes des mouches ? Il y a un petit côté sadique.
Il y a un aspect sadique chez tout être humain et probablement un aspect masochiste aussi.
Bon, peut-être dans la psycho, mais...
Alors là, voilà. Là, on quitte la philo pour la psycho, mais c'est pas que c'est... Mais c'est
on parlait de Lacan aussi, tout à l'heure. Donc.
C'est tout aussi intéressant. Enfin, c'est, bon. Là-dessus... Je vois que Freud, pour trouver une réponse à peu près, je dirais, satisfaisante. Chez Freud, l'être humain est composé d'un tas de pulsions. Il appelle ça des pulsions partielles, des pulsions perverses, dit-il, qui sont des pulsions... Alors, là, il y a la pulsion que je cite de mémoire, donc la pulsion orale, la première, la pulsion anale, la pulsion sadique anale, et enfin la pulsion phallique. Ça fait quatre pulsions. Bon, tout ça, c'est-à-dire que qui se développe très tôt, entre 1 an et 5 ans. Bref, il y a un moment où les enfants, comme tu l'as remarqué, ils aiment tout casser. Bon, ils ont une agressivité. D'ailleurs, d'autres psychologues de l'enfant, autres que Freud, ont noté qu'il y a une agressivité qu'on peut dire naturelle chez l'enfant. Alors après, on l'interprète de différentes manières. Mais alors, on peut penser, pour ramener à notre débat, que cette agressivité, elle peut effectivement entrer en ligne de compte, elle peut être une composante de la sexualité adulte, à l'évidence. Et il y a, de toute façon, alors on va prendre une autre référence qui est Bataille, dans un très très beau livre que je conseille aux auditeurs, qui est l'érotisme. Bataille parle de la mise à nu, qu'il compare à une mise à mort. Le fait de dénuder la personne que nous désirons dans un échange amoureux est une violence quelque part, mais une violence qui est consentie, acceptée. Mais c'est une forme de violence puisqu'on défait l'être de ses défenses. On le met à nu et Bataille dit c'est comme une mise à mort. Et quelque part, il y a sans doute une forme d'agressivité. Donc le désir n'est pas exempt d'agressivité, effectivement. Après, voilà. Après, la question, c'est est-ce que tout ça, enfin, même si c'est une question différente, c'est la question de la légalité. Est-ce que cette agressivité, elle est consentie, elle est acceptée dans le cadre de ce qu'on appelle un jeu, hein, J-E-U, évidemment. Le désir sexuel, notamment, parce qu'on parle de ça, doit rester de l'ordre ludique, de l'ordre on s'amuse. Quand c'est plus un jeu, c'est sinistre. Évidemment, quelqu'un qui déshabille une fille pour la violer, ça n'a pas du tout de rôle, quoi.
On est d'accord, et on va faire une petite respiration musicale.
Osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lavagna 231, 100 in Francia tutti a 91, ma in Hispania, ma in Hispania son già 1003. 1003, 1003, ma fra queste contadine, cameriere cittadine, fra contesse baronesse, marchesane, principesse, per ogni caso, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia, 640, in Lavagna, 231, 100 in Francia e Turchia, 91, ma in Hispania, ma in Hispania sono già 1003, 1003, 1003, ma per queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e la donna di ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella.
Alors on vient d'écouter Don Juan de Mozart, et du coup ça me donne envie de te relancer un petit peu là-dessus, parce que quand on parle de désir, moi ça me fait penser toujours à cette différence entre Don Juan et Casanova. Évidemment, il y en a un qui désire et qui aime désirer, et l'autre qui veut jouir absolument, c'est Casanova.
Oui, c'est effectivement deux figures presque opposées du désir. Don Juan, notamment dans le Don Juan de Mozart, est censé avoir épousé 1003 femmes, c'est le fameux air 1003 qu'on vient d'écouter, sans peut-être y avoir jamais touché. Dans la pièce de Molière, Don Juan quitte celle qu'il a épousée le jour même. Donc il n'est pas du tout indiqué qu'il jouisse de quoi que ce soit. Casanova, au contraire, Casanova, c'est un homme à femme, un homme qui consomme, qui multiplie les conquêtes, mais qui consomme surtout. Il y a le fameux film de Fellini, donc qui donne d'ailleurs une vision assez triste de Casanova, qui en fait un jouisseur un peu à notre cher DSK. Bon, alors c'est une vision
avant
l'heure, voilà. C'est une vision un peu noire de ce qu'on appelle le Casanova.
Oui, puis c'est un peu une synthèse rapide.
Voilà. Maintenant, donc oui, ça vaut. Alors, ça, si on s'en tient à ces deux figures, il y aurait deux types de désirs, l'un qui désire désirer, Don Juan,
c'est ça,
et l'autre qui aime jouir. Alors, est-ce qu'il faut dire que l'une est meilleure que l'autre ? Je ne sais pas. Sur Don Juan, il y a une interprétation psychanalytique qui est intéressante, qui est un peu gênante tout de même. Les psychanalystes font de Don Juan un grand hystérique. Don Juan, c'est l'homme qui, au fond, qui désire les femmes, mais qui n'en retient aucune, puisqu'il les abandonne à peine leur avoir passé la bague au doigt. Donc Don Juan ne retient aucune femme parce que son cœur est déjà pris. Don Juan, c'est l'homme qui aime maman. Et évidemment, face à maman, il n'y a aucune femme qui tient la route. Quoi.
Évidemment.
Donc il les épouse, quelque part il les salit en les épousant, parce qu'il les abandonne.
Ouais.
Mais aucune d'elles ne peut le satisfaire. Donc Don Juan serait la figure d'un désir misérable et puis névrosé. Quoi. Il y avait d'ailleurs eu un Don Juan de Mozart mis en scène à Monaco, que j'avais vu. Et c'était assez terrible. La mise en scène, le décor était un sex shop. Et on voyait Don Juan errer comme un malheureux de pute en pute, quoi, il faut dire les choses, sans vraiment trouver son plaisir ni quoi que ce soit. Moi, je trouve ça un peu une interprétation forcée. Il y a une autre lecture de Don Juan qui serait peut-être plus raccord avec ce que j'essayais de montrer dans les petites notes là, que j'avais amassées. Bah, c'est que Don Juan, effectivement, c'est l'homme qui suit son désir et pour qui désirer la chose la plus importante et qui ne s'arrête à rien, justement, qui, à l'image de Carmen, qui ressemble à Don Juan, c'est un Don Juan en jupon, Don Juan ne connaît aucune loi sociale puisqu'il aime aussi bien une femme noble de son rang qu'une paysanne. Il y a un célèbre où on voit Don Juan séduire ses Zerlinas, je crois. Donc, on peut voir Don Juan comme un homme de la liberté du désir et un homme du jeu, J-E-U, quoi, de l'amusement et de la fête. Ou alors comme un homme, au fond, de la névrose et qui n'est jamais incapable de prendre son pied. Quoi. Ces deux lectures, j'avoue, les deux ont des points forts. Maintenant, la deuxième est un peu triste, tout de même. Je parle de la lecture analytique.
Voilà. Alors évidemment, le désir n'est pas que sexuel.
Non, absolument. Non,
alors, c'est vrai qu'on tourne beaucoup autour. Mais...
Oui. Je crois qu'on tourne beaucoup autour parce que c'est tout de même ce qui intéresse la plupart des êtres humains.
Oui,
maintenant, je crois qu'il y a... Et puis, le désir sexuel, c'est le désir de l'autre. Et il, a, il n'est pas comparable au désir que je peux avoir d'un voyage, d'un verre d'eau, d'un verre de vin, même s'il y a sans doute des points communs. Mais c'est des désirs distincts. Enfin, désirer une personne, désirer un être humain et désirer un verre de vin, ce n'est pas tout à fait pareil, peut-on penser. On a reproché à certains philosophes de l'Antiquité, justement, de ne pas assez marquer la différence entre ces différents types de désirs. Le désir
justement,
pour une personne...
J'allais demander s'il y avait plusieurs types de désirs,
ouais.
Justement.
Bah, chez Platon, le désir, au fond, qui est retenu dans le banquet, c'est le désir de l'autre, et c'est le désir de procréation chez Platon, d'ailleurs, je le dis au passage. Mais il ne marque pas clairement dans son texte que les désirs de la beauté, de quelque forme que ce soit, seraient moins importants. La restriction du désir au désir de l'autre en tant qu'être humain est quelque chose qui appartient plutôt, me semble-t-il, à notre modernité. Mais pour revenir sur cette question, il y a tout de même des... Je disais que l'objet du désir était indéterminé, était au fond assez obscur. Ce qui plaît à... On ne sait pas bien ce qu'on aime. Je pensais à un exemple qui m'était venu à l'esprit en préparant l'émission. Il y a des gens qui désirent la montagne. Ils aiment la montagne parce qu'ils trouvent que l'air est frais, que c'est magnifique, que... Bon, bref, ils ont des envies de montagne. D'autres, au contraire, vont trouver la montagne absolument ennuyeuse, il y fait froid, et ils ont... leur premier désir, c'est de fuir la montagne. Donc on voit bien que, au fond, même si ce n'est pas le même désir que le désir amoureux, mais on est dans l'indétermination. La question, est-ce qu'il y a un objet désirable une fois pour toutes, pour tout le monde, la réponse, elle est non.
Et non, oui.
Y a des hommes qui aiment les femmes avec des talons hauts et les autres les préfèrent pieds nus. Il y a des hommes qui aiment la montagne, ou des femmes qui aiment la montagne, et des femmes qui préfèrent les plaines. Voilà. Donc on reste là-dessus, il y a une unité tout de même, sur l'indétermination de l'objet du désir.
Mais quelque part, c'est une souffrance, ce désir, alors.
Oui, il y a une souffrance. Je pense qu'on ne peut pas nier qu'il y a une souffrance dans le désir, d'abord pour une raison simple, c'est que le désir est un manque. Enfin, désirer, même si c'est l'expression d'une puissance, c'est aussi parce que je manque de quelque chose. C'est la grande leçon de Platon. Mmh. Et tout manque est une souffrance. Si je manque, si j'ai soif, je souffre un tout petit peu. Si je n'ai pas bu depuis 3 jours, je souffre énormément. Donc, le désir amoureux est aussi une souffrance. Donc on ne peut pas nier la présence de la souffrance dans le désir. En même temps, je ne pense pas que ça disqualifie le désir. Ce n'est pas parce qu'on souffre en désirant que ce ne soit pas, je vais faire une chose un peu bizarre, que ce ne soit pas agréable de désirer. Alors, il n'y a aucun sadomasochisme maintenant, mais la souffrance fait partie de la vie. Ne pas souffrir, c'est un peu... il n'y a pas beaucoup d'êtres humains. Et puis, ce serait un petit peu, pas sinon malsain, mais du moins un peu curieux. Je vois pas comment on peut vivre sans souffrir.
Oh. Évidemment. Il y a un côté désir du désir là-dedans.
Oui, ça j'assume absolument. Je pense que on désire désirer, oui. Ouais. Il y a une belle phrase qu'on trouve dans un roman de Malcolm Lowry, qui a eu beaucoup de succès à son époque, qui s'appelle « Au-dessous du volcan ». Je ne sais pas si tu connais, c'est un roman américain. Et donc, je ne vais pas raconter l'histoire, mais le consul, qui est le personnage principal de ce roman, écoute un chanteur des rues répéter ses paroles, qui sont très belles. Alors, en espagnol, pardon pour l'accent qui doit être très mauvais, c'est « No se puede vivir sin amar », ce qui se traduit en français.
«
On ne peut pas vivre sans aimer ». C'est-à-dire que le fait d'aimer, et pas le fait d'être aimé, ce qui n'est pas pareil du tout, le fait d'aimer est la condition nécessaire à la vie. On peut d'ailleurs élargir, c'est-à-dire qu'au fond, on ne peut pas vivre sans aimer la vie. Et que c'est, au fond, ça... En quoi réside le bonheur? Aimer vivre, être heureux, c'est à peu près la même chose. Et aimer vivre, désirer vivre, c'est évidemment pareil. Donc je crois qu'effectivement, dès lors qu'on accepte que le désir de vivre est premier, c'est ce que dit Spinoza encore une fois, on ne va pas exclure la souffrance. La souffrance fait partie de l'existence, et au risque de surprendre, la souffrance fait partie du bonheur.
Et donc on est constamment à la recherche du bonheur.
Alors... je vais dire non. Je vais dire non parce que je suis fatigué de toujours dire le bonheur est une espèce d'horizon lointain. Non, parce que le simple fait de désirer nous rend heureux. Donc on n'est pas à la recherche du bonheur. Quand on désire, on est heureux. Or, on a plusieurs désirs alors qu'ils sont hiérarchisés. Certaines nous tiennent plus à cœur que d'autres. Mais je crois pas que le bonheur soit un horizon à la fois inaccessible, vague, comme le veut Kant par exemple. Kant dit le bonheur est un idéal de l'imagination. Non, je pense que le bonheur est dans le fait de désirer. Donc dès lors que je désire une femme, et même si celle-ci ne me regarde pas, mais le fait que je la désire, je me sens vivant, je dirais que ça me tient, quoi. Je suis heureux, même si je souffre, parce que peut-être qu'elle ne me regarde pas. Mais si j'avais aucun désir, je m'en aperçois toujours, je dirais, c'est pas... On s'en aperçoit à contrario. Le jour où on ne désire rien, ni partir en voyage, ni une personne, ni un verre de vin, là, on se trouve très mal. On ne souffre plus, mais c'est bien pire. Voilà ce que je dirais.
Je souffre, donc je suis. Je désire, donc je suis.
Absolument. Oui, ça, je pense qu'il faut. Spinoza rectifie complètement Descartes. Descartes, c'est je pense, donc je suis, pour reprendre un peu ce qui est la tarte à la crème de la philo, qui n'est pas tout à fait faux. Mais Spinoza dit c'est je désire, donc je suis. C'est le désir qui me. Il le dit. Le désir est l'essence de l'homme. On y revient. C'est ça qui nous définit plus que la pensée.
Donc c'est le désir qui est le bonheur.
Absolument. Le désir est le bonheur. Et pas, justement, pas la jouissance. Qui, à en croire Lacan, est de toute façon impossible. Lacan fait la distinction entre la satisfaction, je le disais au début de l'entretien, il y a plusieurs termes dans le désir, le but du désir c'est d'être satisfait, et il y a la jouissance. La satisfaction c'est le fait d'obtenir gain de cause. Je désire réussir le bac, j'ai le bac, je suis satisfait. Mais est-ce que j'ai joui, pour employer le mot avec tout ce qu'il a de cru en français ? Probablement pas, il n'y a pas de jouissance.
Non, je
ne
connais pas d'élève qui ait joui.
Voilà. Donc, et j'ai pas joui parce que à peine j'ai le bac en poche, je me dis bon, il faut que je file à l'université.
C'est ce que j'allais dire. Il faut vite s'inscrire. Oui.
Pour ma licence, quoi.
Oui, c'est ça.
Et puis pareil, à peine, même dans les bras de la personne qu'on aime, quand est-ce qu'on se revoit ?
Oui.
Enfin, si ça s'est bien passé.
Évidemment.
Et, voilà. Et donc, même si ça s'est bien passé, donc on a été satisfait, mais on peut pas dire qu'on a joui, c'est-à-dire qu'il y a toujours un reste, il y a un manque. Il y a une belle image qu'on trouve dans un poème d'Apollinaire qui s'appelle « La chanson du mal-aimé ». C'est en tête du poème, il dit « Et je chantais cette romance en 1905 sans savoir que mon amour a la semblance du phénix, de l'oiseau phénix. S'il meurt un soir, le matin voit sa renaissance. » Et j'ai toujours trouvé ça très beau. C'est-à-dire que l'amour, ici il s'agit de l'amour, mais de manière générale le désir, est absolument insatiable, mais pas au sens négatif où les gens l'entendent. Il y a toujours un reste. Et c'est ce reste qui fait qu'on est en vie. Imagine qu'on soit comblé. D'abord, on s'emmerderait.
On s'emmerderait, oui.
On s'emmerderait, franchement. Et puis, on ne ferait plus rien. Ça montre aussi, si on réfléchit un peu plus avant, que ce que nous entreprenons n'est pas complètement réfléchi. Si la source de nos actions, elle est dans le désir, ça veut dire qu'il y a une impulsivité dans notre être. Et on a une définition de l'être humain qui est un peu moins intellectuelle, un peu moins intellectualiste que celle qu'on va trouver chez Descartes, par exemple. Qui lui parle de conscience, de pensée plus exactement, beaucoup de volonté. Alors que là, on va plutôt être dans une impulsion à faire quelque chose, quitte après à réfléchir et puis à se réserver une autre possibilité, je ne sais pas. Mais le mouvement qui nous fait vivre n'est pas un mouvement calculé. On ne calcule pas ce qu'on désire. Je crois, enfin, on ne regarde pas. C'était une seconde objection que je voulais aussi envisager tout à l'heure. C'était, au fond, on ne désire pas les...
Je ne sais pas, justement. Je me demande si on... Si on ne calcule pas ce qu'on désire, si peut-être, dans certains moments, les fantasmes, est-ce qu'il n'y a pas un calcul de désir ?
Non, ça je ne crois pas. S'il y a bien quelque chose qui s'impose à nous de façon très, 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 très immédiate, ce sont les fantasmes. D'abord, il faut noter justement, alors le fantasme, c'est un peu particulier dans la logique du désir. On est dans l'imaginaire, c'est ni du réel, ni de ce qu'on appelle en psycho le symbolique. Le fantasme, il est lié à une image. Alors, pour Lacan, c'est l'image que l'enfant découvre de lui-même dans le miroir et qui est à la source du fantasme. Il faut voir aussi, donc, dans le fantasme, on a une image de l'objet du désir qui est une image complète. Ce qui est assez fascinant, car tous les êtres humains ont des fantasmes très variés, c'est que quand les fantasmes, on sait très bien ce que c'est. Alors tu me diras si tu n'es pas d'accord, mais quand on songe à un fantasme, c'est très détaillé. C'est ça qui marche, ça ne marche pas. Parce que c'est une logique de l'imaginaire qui n'est pas celle du réel. L'objet... je dirais réel du désir qui au fond nous fait avancer est un objet qu'on n'arrive pas à saisir. Alors dans cet objet va sans doute se mêler un peu une part d'imaginaire et de fantasme, mais je me rappelle plus ta question du coup, c'était sur le fantasme.
Est-ce que le fantasme, je me souviens plus de la question non plus.
je suis parti trop avant, mais je sais plus, pas. Non, enfin le... Oui, le calcul. Tu disais, mais est-ce que c'est pas un peu calculé ? Le fantasme, non, tu n'as pas choisi. Si tu calcules, tu choisis.
Justement. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où, alors si on prend un fantasme, le fantasme sexuel, il y a plein de fantasmes, notamment celui-là, mais c'est vrai qu'on y revient toujours. Ouais. Ça s'appelle le point G, cette émission. Évidemment.
Revenons.
On y revient. Quand on peut avoir un fantasme et puis se construire une espèce de scénario autour.
Oui, mais. Bien sûr, c'est pas qu'on peut, c'est ce que font tous les amateurs. Enfin, on n'est pas amateurs de fantasmes. Dès lors qu'on se laisse porter par la logique du fantasme, on brode, on fait des scénarios, il y a, tu as raison, c'est le mot juste, c'est un théâtre le fantasme.
C'est ça, ouais.
Mais je suis bien d'accord. Mais tu peux pas me dire que tu choisis d'avoir ce fantasme.
Ah d'accord.
C'est ça. C'est-à-dire qu'admettons, un type dont le fantasme est... alors c'est pas très répandu, mais ça existe. Moi j'avais connu quelqu'un qui aimait ça. C'était d'être fouetté par des femmes. Bon, un homme aime se faire fouetter par une femme. C'est un fantasme assez dur, paraît-il, à réaliser, parce que les femmes aiment pas trop. Enfin bon, peu importe. Bon, on peut pas dire, c'était un fantasme qui lui facilitait pas la vie. Hein. Il avait du mal à le satisfaire. Et bon, il l'avait pas choisi. En même temps, ce fantasme était d'une grande précision. Après, si tu veux, il était calculé au sens où il était complètement mis en scène.
Je comprends.
Voilà.
Ok. Là, je comprends mieux.
Donc, on choisit pas de désirer ce qu'on désire. Voilà. Je crois que ça, c'est quand même la clé. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait sans doute une certaine marge de manœuvre. Par exemple, on peut être effrayé par un certain désir, c'est-à-dire par son objet. Hein. Puis on peut se dire qu'il vaut mieux y renoncer. Bon, il y a des désirs qui, de toute façon, légalement, sont interdits. Bon, par exemple, si vous avez un désir cannibale, admettons, ça va surprendre, ben non, il vaut mieux pas.
Il vaut mieux pas, oui, voilà. Ça, c'est clair.
C'est pas, voilà, il vaut mieux pas. Bon, donc, il y a un aspect, de toute façon, enfin, la plupart des philosophes l'ont noté, il y a un aspect dangereux dans le désir. Et c'est lié justement au fait, c'était la remarque dont j'étais parti, le désir, c'est pas le rêve, hein, c'est pas le souhait, c'est pas j'aimerais bien, si j'étais riche, etc. Le désir, c'est maintenant, on en a franchement envie, quoi.
Mmh.
Et ça, c'est assez dangereux, parce que ça peut porter les gens à commettre des actes, pour le moins, qu'ils regretteront par la suite. Donc il faut, et alors, d'après Freud, c'est le rôle de la société, justement, de nous apprendre ou de nous dresser, quelque part, à contenir ce flot de désirs qui ne sont pas toujours très tendres.
Je ne sais plus quel était l'écrivain qui disait si on se laissait aller à tous nos désirs, les rues seraient pleines de femmes enceintes et de cadavres.
Ah non, je ne sais pas non plus, mais c'est pas faux, c'est pas faux. Je pense que le... Oui, bah parce que le désir, si le désir se constitue par rapport à la loi, on l'a dit tout à l'heure, dans le désir, il y a aussi ce désir de transgresser la loi. C'est sur quoi insiste Bataille notamment, c'est un désir de transgression. Alors... Bataille dit que l'idéal, si on peut dire, c'est dans le jeu, c'est-à-dire qu'on joue avec la loi, on essaie de la transgresser sans vraiment la transgresser.
Le petit excès de vitesse de 3-4 km/h, 10-15 km/h.
Ouais, peut-être. Bataille prend il y a un livre, un roman célèbre qui s'appelle Ma mère, où il est question de l'inceste, où on voit une mère.
Ça, c'est autre chose.
Ouais, ouais, ben non, c'est pour ça que je pense exactement, parce qu'il est un peu plus lourd que celui de l'excès de vitesse.
Oui.
Absolument. Et on voit une mère qui joue avec le désir de son fils. Et c'est très ambigu, ça peut paraître très malsain d'ailleurs. Ça a été porté à l'écran par un cinéaste qui fait pas mal de choses bien. Honoré, je ne rappelle plus son prénom. Honoré, c'est son nom de famille. Et c'est Huppert qui joue le rôle de la mère et c'est très bien. Elle le fait. On voit bon, ce jeu, cette fascination. Le fils est évidemment complètement fasciné. Il n'a qu'une envie, c'est de sauter sa mère. Et en même temps, ni l'un ni l'autre ne passeront à l'acte. Et le film est sur ce jeu de la transgression, mais c'est une transgression qui n'est pas accomplie. Alors après, on peut tirer toutes les conclusions qu'on veut. Mais oui, donc le désir, il y a un aspect effectivement qui peut être dangereux. Oui, il y aurait sans doute plus de femmes enceintes qu'il n'en existe aujourd'hui, c'est sûr.
Et puis il y a évidemment le désir de mort.
Ça, c'est...
Si on devait finir là-dessus.
On peut finir sur le désir de mort, on aurait pu finir sur des choses plus joyeuses. Mais
non, on peut finir sur ce que vous voulez.
On peut... Disons, le désir de mort, de l'Antiquité jusqu'à Freud, ça n'existe pas. Moi, c'est intéressant, puisque j'ai plusieurs fois parlé de Spinoza, c'est bien quelque chose qu'il n'envisage pas. Le désir, c'est un désir de vie. Mais que ce soit chez Platon, Aristote, d'Aquin, Spinoza, enfin, on prend tout ce qu'on veut, le désir est une affirmation. Alors, on l'interprète de plusieurs manières. Mais c'est lié à la vie. C'est lié à l'affirmation de soi. Donc, on ne peut pas désirer mourir. Il faudra attendre Freud, qui, à la fin de sa carrière, donc ça, c'est pas du tout une idée qui lui vient vite, va... Imaginez un conflit entre Eros, le désir de vie, et Thanatos, le désir de mort, qui est un désir de mort qui justement est un désir de désintégration. C'est-à-dire qu'au fond, je m'expose dans certains jeux à être démembré, en quelque sorte, à être désintégré, et il y a un désir de mourir, c'est un désir de remise en cause de l'individu. On trouvera d'ailleurs une reprise chez Bataille de cette idée. Alors c'est un désir très très inquiétant, mais qui pour Freud sera à l'œuvre, par exemple, pour raccrocher l'actualité, dans les djihadistes, il y a à l'évidence un désir de mort. Enfin, ils ont quand même un tic, c'est de se faire sauter sur des bombes. Ben, c'est très curieux. Ils se font démembrer, l'individu explose littéralement. D'un point de vue analytique, c'est un vrai désir de mort, c'est Thanatos qui est à l'œuvre chez ces gens, pour le coup, un peu déglingués quand même.
Oui, ça c'est clair, mais je crois qu'ils ont une promesse au-dessus d'avoir mis je ne sais plus combien de vierges.
Ouais, mais qu'est-ce qui les attire vraiment? Est-ce que c'est les vierges ou est-ce que c'est le plaisir d'être déglingué? Ça, ça reste ouvert. Hein. Est-ce qu'ils y croient vraiment à leur vierge?
Je ne peux pas dire.
Moi non plus. Et je ne prononcerai pas.
Mais effectivement, on peut finir sur une note un peu plus gaie, certainement.
Alors, ouais. Bah, au fond, la question qu'on peut se poser, puisqu'on a vu que le désir était très complexe, obscur, indéterminé, pas naturel, pas toujours facile à satisfaire, etc. Enfin, bref, pour le moins complexe. Bah, c'est la question que posent les moralistes. Peut-être on peut terminer là-dessus. Est-ce qu'il est vain de désirer? On n'a pas eu le temps d'en parler, mais le désir nous dépossède de nous-mêmes. On ne sait pas bien ce qu'on désire, on n'en a pas trop parlé non plus, on ne sait pas pourquoi on désire ceci plutôt qu'autre chose. Bon, c'est très confus, très obscur, encore une fois. Alors, les stoïciens, les religieux à nouveau, vont tous nous dire « Ouh là là, le désir, c'est la misère, surmontez vos désirs, renoncez. » Alors, renoncez-y complètement, disent certains religieux. En partie, disent les stoïciens, il faut renoncer aux désirs qui ne dépendent pas de nous, c'est-à-dire, à mon avis, la totalité. Bon, on peut considérer que c'est folie, quoi. C'est absolument folie de renoncer aux désirs, puisque c'est ce qui nous maintient en vie. Donc, je pense qu'au contraire, il est très sage de désirer, et très sage d'affirmer la puissance de ses désirs. Et je voulais justement, j'avais préparé ça, je voulais terminer sur cette petite phrase de Pascal, parce qu'il y a quelque chose de fou dans le désir. Tes questions ont pointé cette dimension un peu sauvage et puis un peu incontrôlée quand même. Et voilà ce que dit Pascal, et on terminera là-dessus, ça me paraît parfait. Je cite « Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. »
Je désirais faire absolument cette émission. Merci beaucoup, Gilles Pétel. Merci beaucoup. Ça va en appeler plein d'autres. Ça, c'est très évident. Est-ce qu'on pourrait avoir... on aurait une idée de livres à lire ou de films à voir? Bon, des films, on en a parlé de trois ici. Est-ce qu'il y a un bouquin ou deux?
Et ça ne manque pas. Il y a une littérature abondante. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, peut-être le point de départ, c'est Le Banquet de Platon. Après, on peut regarder un livre de Lucrèce, tout aussi célèbre, De la nature des choses. Il y a L'éthique de Spinoza, mais dont la lecture est un peu redoutable. Enfin, pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil, ils pourront regarder le livre 3 de l'éthique, qui est à peu près accessible, sur lequel je me suis beaucoup appuyé. Nietzsche, Le gai savoir, justement sur le caractère affirmatif du désir, ça, Le gai savoir de Nietzsche. Freud, puisqu'on en a parlé pas mal. Si je dois en conseiller un, qui a le mérite d'être un résumé de la doctrine freudienne, ça s'appelle, le titre est explicite, « Trois essais sur la théorie de la sexualité ». C'est clair. Lacan, mais alors Lacan, c'est redoutable à lire, enfin pour ceux qui voudraient vraiment y jeter un coup d'œil, le séminaire, le livre 6. René Girard, dont je voulais parler, puis je n'ai pas eu le temps, ça je le conseille, c'est un excellent livre, alors très accessible, je crois, enfin très accessible, moyennement accessible. Mensonge romantique, vérité romanesque, le désir et désir du désir de l'autre, vous trouverez ça là-dedans. Et enfin, un petit texte qui n'est pas très ancien, que j'ai lu récemment, de Frédéric Lordon, dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle « Capitalisme, désir et servitude ». Voilà, ce qu'on peut conseiller pour les amateurs. Mais il y a bien d'autres ouvrages qu'ils trouveront par eux-mêmes.
J'irai même plus loin, puisqu'on peut également lire les « Une minute pour comprendre » écrits par Gilles Pétel.
Nous avons Socrate, Épicure et Montaigne.
Ouais, c'est ça.
Pour le
exact.
Moment. Voilà.
Merci beaucoup. Vous pouvez réécouter cette émission sur iOS, sur Android, sur iTunes, sur évidemment temporiumradio.fr. Merci à toutes et tous. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Envoyez-nous des retours parce que c'est très important. On va essayer de s'améliorer, soit de, si vous préférez, des émissions d'une heure et demie, d'une demi-heure, 45 minutes. On est là pour vous, puisque après tout, c'est votre radio. Ce sont vos émissions. C'était Le Point G. Merci Gilles Pétel.
Merci Richard.
À la prochaine.
À la prochaine.
Merci.